Vous écoutez France Culture.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
En direct du musée du Bardot, c'est extrêmement émouvant, il faut bien le dire, d'être ici. Et merci à vous de nous accueillir, Moncef Ben Moussa. Vous êtes conservateur au musée national du Bardot depuis 2013, professeur d'archéologie et d'histoire ancienne. Autour de vous, d'autres invités qu'on écoutera plus tard et assez rapidement tout de même dans les matins. Mokhtar Trifi, bonjour, président d'honneur de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, que vous avez dirigé de 2000 à 2011, président du bureau de la Fédération en Tunisie des droits de l'homme. Farida Ayari, journaliste indépendante. François Gouillette, monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous, ambassadeur de France en Tunisie. Nous écouterons aussi Latifa Lakhdar, ministre de la Culture, tout à l'heure, ainsi que Hila Yousfi, sociologue, spécialiste des mouvements syndicaux en Tunisie, qui auront leur importance, ces syndicats, le syndicat, l'UGTT, en ce 1er mai. Et puis nous sommes accompagnés, bien sûr, par le camarade de Radio France, Thibaut Cavaillès, correspondant de Radio France ici en Tunisie, et n'est pas loin de nous, se trouve aussi Nadine Epstein, et puis toute la file d'équipe de France Culture, Gilles Gallinaro, Benjamin Hu, Francesca Fossati. Moncef Ben Moussa, il y a un mois et demi, se déroulaient ici des événements absolument terribles, une tuerie, deux hommes, 22 victimes au total qui sont célébrées ici, honorées à l'entrée du musée du Bardot. Des impacts de balles subsistent dans quelques salles qu'on a pu visiter hier. La toute première question, c'est qu'un mois et demi, c'est très peu. Comment vivez-vous cet épisode-là, tragique? Vous y attendiez-vous à ce qu'il y ait, après, on le sait, l'Irak, un attentat contre un musée? Et vous vous êtes-vous dit, la révolution est foutue?
Non, pas un seul moment, je n'ai eu cette idée. C'est vrai que quand on pensait à ce qui se passait en Irak, tout le monde était menacé. Mais pas seulement en Irak, pas seulement ces actes contre la culture de l'humanité. D'un point de vue, si vous voulez, général, c'était un acte qui reflétait aussi l'existence d'un fléau mondial. Et donc, à aucun moment, personne ne pouvait dire qu'il était à l'abri. Et donc, tout le monde était menacé. C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qui existe un peu partout dans le monde. Et la preuve en est, c'est que quand ça se passe en France, on se sent aussi concerné. Quand ça se passe en Tunisie, votre présence ici aujourd'hui, toutes les expressions de solidarité de la part de tout le monde, de nos amis français avant tout, mais aussi du monde entier.
Et puis du monde entier, parce que vous avez un emploi du temps infernal, il faut bien le dire. Hein. Oui. Hier, des ambassadeurs de toutes sortes, le président allemand avant-hier. Oui. Bon, et en même temps...
C'est dans la continuité aussi, mais en même temps aussi, je dois être avec vous ce matin, par exemple, de bonne heure.
Vous finirez, j'espère bien, par arriver à trouver le moment de faire le moyen de faire une petite sieste. Qu'est-ce qu'on a visé ici, Moncef Ben Moussa? Quand on se promène dans le musée, on est évidemment extrêmement ému, et c'est pas du tout une formule que j'emploie là, très ému par ce qu'on voit, des mosaïques, des visages, la salle marine, de ce qui est quand même, et ce qu'on appelle cette Mare Nostrum, qui montre qu'il y a une culture, une superposition de culture, de religion qui se sont superposées. C'est ça qui était visé?
Oui, tout à fait, je le pense. Et j'en suis convaincu parce que le musée du Bardot, tout d'abord, est un musée symbole. Tout d'abord, c'est un musée national, et de musées nationaux dans le monde entier, il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, j'ai peut-être la chance d'être à la tête d'un musée qui représente tout d'abord toute l'histoire de la Tunisie, qui recèle, si vous voulez, des pièces archéologiques qui résument l'histoire de la Tunisie. La Tunisie, de par sa position en Méditerranée, donc au cœur de la Méditerranée.
C'est la Mare Nostrum,
au cœur du Mare Nostrum. Donc c'est une marée de culture, si vous voulez. C'est un carrefour de culture. Du coup, le Musée national du Bardot représente cette stratification de culture que la Tunisie avait connue et que les Tunisiens partagent avec le monde entier, avec les Méditerranéens, avec les habitants. Donc c'est aussi un retour et une allusion à ce que représentait le Mare Nostrum, sur lequel c'était un chemin parcouru par des cultures, par des idées, par des valeurs humaines que tous les habitants de la Méditerranée partageaient ensemble dans les Tunisiens.
Et je défie quiconque qui va dans ce musée qui n'y est pas encore allé, comme moi hier, de ne pas avoir à certains moments ou à d'autres les larmes aux yeux devant ces mosaïques véritablement. On va écouter tout de suite Yad Benachour. C'est un peu Yad Benachour comme un héros de série au matin de France Culture. Nous l'avions interviewé le lendemain du départ de Ben Ali ici. Yad Benachour, il faut dire que c'est comme un trésor national vivant, dirait-on au Japon. C'est celui qui a pondu les fondamentaux de l'Assemblée constituante pour ensuite écrire la Constitution. On pourrait dire qu'il est le père, au fond, en quelque sorte, de cette Tunisie moderne qui s'invente jour après jour depuis 4 ans. Nous l'avons eu régulièrement pour prendre des nouvelles de la Tunisie dans les matins de France Culture. Il fallait bien sûr faire le détour par sa belle maison à La Marsa et lui demander, lui, comment il avait vu, au fond, et comment vécu. Il avait vécu, il y a un mois et demi, cet attentat du Bardo. Et au fond, qu'est-ce qu'il en tirait pour la Tunisie d'aujourd'hui? Écoutez donc le grand juriste Yad Benachour qui a été élu il n'y a pas si longtemps au comité des droits de l'homme à l'ONU. Yad Benachour.
L'attentat du Bardo est terrible, mais nous avons connu aussi terrible au cours de l'année 2013. Nous avons connu des assassinats ciblés et répétitifs. Nous avons connu l'assassinat de 2 très grands leaders. Je ne veux pas comparer la valeur des morts. Un mort est un mort, hein, que ce soit un national ou des étrangers. Moi, je pense que ces gens-là, on devrait leur donner la citoyenneté tunisienne, la citoyenneté d'honneur à ces gens-là. Donc, je n'ai fait pas de... Mais quand même, la mort de Chokri Belaïd et la mort de Mohamed Brahmi en 2013 ont été des marqueurs d'histoire. Et malgré ça, nous avons conservé notre optimisme parce que nous avons eu ces assassinats. Après, il y a eu l'attentat du Bardo, ça a été un carnage. Mais ils pourront faire ce qu'ils veulent. Nous ne changerons pas de cap, et surtout le cap démocratique.
Avant d'aborder les questions qui concernent d'ailleurs le 1er mai, les manifestations qu'il y aura, la fête du travail, mais on le sait, sur un fond de crise sociale importante en Tunisie, une brouille entre les 2 syndicats majoritaires aujourd'hui qui ont accompagné, en même temps que les politiques, la révolution, il y a le contexte tout de même et qui nous fait revenir, après l'attentat du Bardo, au voisinage de la Tunisie. Il y a une Libye en plein chaos, une Syrie également, dont on dit qu'elle fournit par rang entier, évidemment, des terroristes islamistes. La frontière libyenne et tunisienne est extrêmement poreuse et on sait que la Tunisie est inquiète de ce chaos libyen qui la menace, enfin, tout de même. Est-ce que cela pèse, ça, cette question-là, sur la vie intérieure du pays, la vie politique, mais je dirais la vie citoyenne?
Mais elle pèse d'abord d'une manière physique, parce que les Libyens qui sont en Tunisie s'évaluent à, en tout cas, nettement plus qu'un million. On dit 2 millions, entre 1,5 million, etc. D'abord, il y a une présence physique des Libyens qui sont là. Et nous ne pouvons pas fermer les frontières. C'est un problème humanitaire. Lorsqu'on a essayé de le faire, qu'on l'a annoncé, il y a eu beaucoup de réactions, y compris en Tunisie. Donc, le problème libyen, nous le vivons physiquement. C'est une grande menace, pour la bonne raison que la frontière est poreuse, qu'elle est difficilement contrôlable et que les armes passent. Mais nous assistons actuellement à une amélioration de la sécurité aux frontières. Et je pense que avec l'accroissement des ressources de l'armée surtout, nous arriverons à maîtriser la menace libyenne. Mais il n'y a pas que la menace libyenne, parce que les terroristes nous viennent d'ailleurs également. Nous viennent d'Algérie, du Mali, etc. Et donc c'est une menace en fait qui n'est pas uniquement pour la Tunisie, mais pour tout le... Mais la situation s'améliore.
Oui, mais la petite Tunisie, elle peut résister à tout ça, Yad Benachour?
La petite Tunisie, quand elle est menacée, elle a un secret ou un mystère, c'est qu'elle sait utiliser l'unité nationale. La menace, quand elle devient vraiment sérieuse, refait l'unité des rangs. Nous l'avons vu chaque fois au cours de l'année 2013, en 2014 et en 2015. Il y a eu un élan en Tunisie après les attentats du Bardo qui est extraordinaire. Et donc, je pense qu'avec l'unité du peuple, de l'armée, de la police, des syndicats, du gouvernement, de l'élite intellectuelle, nous arriverons à faire face à toutes ces menaces réelles.
Est-ce que la stratégie du président actuel, du président Essep Sy, correspond au fond à ce que vous dites sur un plan, je dirais, intérieur? Il a l'air de tenter un coup formidable à l'opposé de ce que font les Égyptiens, en intégrant notamment un ministre islamiste dans son gouvernement. Sauf que, tout de même, il s'attire les foudres quand même certaines d'une partie de son camp, et ce ministre islamiste s'attire les foudres également des islamistes qui considèrent qu'il ne faudrait pas collaborer avec ce nouveau gouvernement-là. Alors, c'est un pari, c'est un coup, c'est quoi cette stratégie présidentielle?
Cette stratégie présidentielle est inévitable. C'est la sagesse, c'est le réalisme. On aurait pu faire sans, n'est-ce pas? Nidatounes a la majorité, une majorité qui n'est pas considérable. Hein, c'est une faible majorité par rapport à Nahda, qui est en deux. Nahda n'a pas perdu les élections, c'était une erreur de dire cela. Et c'est le deuxième parti. Et avoir ce parti contre soi, je pense que ça aurait été négatif pour le pays, parce que ça aurait rendu le gouvernement extrêmement fragile. Or, nous avons besoin de la réunion des forces. Et je pense que la décision, qui n'est pas uniquement celle du président de la République, qui est également celle de Narva, elle-même, qui a demandé à rentrer au gouvernement. Je pense que c'est une solution de sagesse qui nous évite pas mal de déboires. Mais la démocratie, c'est le régime des querelles permanentes. C'est ça sa beauté, c'est qu'on est tout le temps en train de se batailler, de se quereller. Et donc c'est normal que Jabhat al-Sharbiya manifeste sa colère vis-à-vis de, d'abord, ce pôle qui pourrait devenir un danger pour le pays, et pour elle, pour la gauche tunisienne, pour les nationalistes, etc. Je comprends très bien cette réaction. Mais sur le plan concret, sur le plan du réalisme et de la sagesse politique, je crois que c'était une bonne décision. Donc l'opposition est là, c'est tout à fait normal qu'elle fasse entendre sa voix, c'est tout à fait normal aussi qu'elle soit mécontente.
Alors elle est mécontente, Yedd Ben Achour, crise sociale importante, grève ininterrompue sur grève ininterrompue. La Tunisie pourrait-elle se permettre un soulèvement de mécontentement populaire sur des questions sociales ?
Il faut pas condamner ceux qui font les grèves actuellement, parce qu'ils les font à cause d'une déception par rapport aux attentes qui ont été provoquées par la révolution. La justice sociale, la dignité, etc. C'était le grand mot de la révolution. À côté de la liberté, il y avait la dignité et la justice sociale. Voilà les mots d'ordre de la révolution. Or, ce que les gens constatent, et c'est pour ça que je ne condamne pas, mais je vais vous dire tout à l'heure autre chose, c'est que non seulement nous n'avons pas avancé, mais nous avons régressé sur ce plan-là. Nous avons gagné beaucoup sur le plan de la démocratie, de la liberté d'expression, du pluripartisme, tout ce que vous voulez. Ça, c'est du gagner quasiment à 100%. Mais sur le deuxième front de la révolution, c'est-à-dire la justice sociale, l'équilibre entre les régions, la lutte contre la pauvreté, le chômage, la croissance économique, mais nous avons régressé. Et donc, c'est tout à fait normal que les gens protestent. Maintenant, ce qu'il faut faire, les protestataires doivent être conscients qu'on ne peut pas continuer, qu'il faut un arrêt. Un arrêt parce que la situation du pays n'est pas bonne à cause justement des deux problèmes fondamentaux du pays aujourd'hui, la crise sécuritaire, qui est réelle, vous avez parlé d'attentat du Bardo tout à l'heure, mais également la crise économique.
Et tout est lié, parce que les attentats font que le tourisme ne vient plus, entre autres, et que le tourisme, on le sait, est une des ressources du pays.
Et donc, c'est au moment où nous avons besoin de plus de ressources que la situation générale du pays, et surtout la crise sécuritaire, fait que nous nous embourbons de plus en plus sur le plan économique. Et quand on lit les spécialistes de l'économie, quelques-uns, en tout cas moi je lis, je trouve que c'est très très inquiétant, parce que tout va en arrière. Il n'y a que l'inflation qui va dans le sens de l'accroissement. Tout le reste baisse. L'investissement, le chômage aussi, ça croît. Et surtout dans les régions du Sud, où ça atteint des proportions phénoménales. Et donc, moi, tout en comprenant la protestation, je dis quand même qu'il faut maintenant adopter une attitude de mesure dans les mouvements sociaux pour permettre à la machine économique de reprendre et pour permettre au gouvernement de gérer, d'abord de générer l'économie, mais de gérer les finances publiques qui sont également très fatiguées et, par exemple, penser à la réforme fiscale, etc., et aller dans le concret. Nous sommes, vous voyez, sur le chemin de crête, quoi. On a très, très, très peu de marge de manœuvre. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
Au fond, quoi, dans une révolution, la chose la moins difficile à attraper, c'est la liberté. C'est tout le reste qui est compliqué.
Oui, oui. La liberté. Vous prenez les gens qui vivaient bien sous l'Ancien Régime, qui avaient de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se loger, les médecins, les chefs d'entreprise, etc., etc. Disons les bourgeois. Bon. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'il leur manquait ? Il ne leur manquait que la liberté. Leurs conditions de vie n'ont pas changé. Le jour où ils ont cette liberté, c'est en 24 heures. Ça se fait en 24 heures. Ils deviennent des citoyens à part entière. Et rien ne leur manque plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le bourgeois tunisien et le bourgeois français ou allemand, il n'y a pas de différence. Nous vivons exactement de la même manière. Là où le bât blesse, c'est que le deuxième tableau de la révolution, la justice sociale, non seulement nous n'avons pas avancé, mais nous avons régressé, nous l'avons dit. Et donc, c'est normal que les gens soient déçus, parce que c'est quand même le deuxième volet de la révolution, la justice sociale. Et c'est cette déception qui explique les mouvements sociaux aujourd'hui qui sont... Bon, maintenant, il faut les arrêter pour pouvoir de nouveau avancer, mais bon, c'est-à-dire qu'il faut faire une feuille de route, une nouvelle feuille de route, cette fois-ci qui ne soit pas politique, comme nous l'avons fait en 2013, 2014, mais qui soit économique et sociale. Une feuille de route économique et sociale.
Ce que vous dites là, c'est ce qu'on retrouve dans la rue, hein, quand on discute, ça et là, un chauffeur de taxi, un commerçant, un restaurateur, où l'on entend dire ça, ah, finalement, c'était peut-être mieux sous Ben Ali.
Je crois que les gens qui parlent comme ça ont la mémoire courte, ont la mémoire très courte et pensent toujours en fonction du présent immédiat. ils ne savent pas, ou bien ce sont des gens qui n'ont pas souffert sous Ben Ali, ou c'est des gens qui se désintéressaient de la vie publique, mais en tout cas, c'est une aberration de dire une chose pareille. C'est une véritable aberration. Pourquoi c'est une véritable aberration? Parce que, d'abord, sur le plan sécuritaire, ce n'était pas aussi brillant. Hein. Je vous rappelle l'Agriba, l'attentat de l'Agriba, je vous rappelle Slimane, je vous rappelle la répression, je vous rappelle les souffrances, la torture, l'utilisation systématique de la torture. Et c'était tout ça, c'est des nids de souffrance. Hein. Bon, alors les gens qui disent ça, ils disent n'importe quoi pour moi, n'importe quoi. Et sur le plan des performances économiques, laissez-moi vous dire que tout cela était bâti sur le mensonge. Maintenant, nous nous apercevons. Les chiffres du chômage étaient faux. Donc, c'était bâti sur le mensonge. La pauvreté existait, peut-être qu'elle n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui, c'est vrai, parce que nous avons un peu reculé. Mais le succès économique du régime Ben Ali, c'est une invention, c'est du mythe, ça n'existe pas.
Il reste pour moi une dernière question qui est un mystère tout de même entier. Je ne comprends toujours pas pourquoi, Yad Ben Achour, vous n'êtes pas président de la République.
Oh, disons que Monsieur Kaïdessepsi a la priorité, au moins celle de l'âge. Non, moi, vous savez, mes ambitions politiques ne sont pas celles d'un vrai politique. Mais moi, ce qui m'importait le plus, c'était d'avoir une bonne constitution. C'était ça mon but essentiel. C'était ça dès le début. C'était ne pas laisser la Constitution entre... C'est-à-dire une Constitution dont on aurait honte un jour. Cela étant, je sais que une Constitution, et même de bonnes lois, ne donne ni du pain, ne donne pas un meilleur taux d'emploi, n'enlève pas le chômage, ne supprime pas la baisse des investissements et ne jugule pas l'inflation. Mais c'est essentiel, c'est nécessaire. Ce n'est pas suffisant, nous avons eu l'essentiel. Maintenant, bon... Une constitution est une constitution, elle ne résout pas les problèmes du pays, parce qu'ils ne sont pas là les vrais. Ça, c'est la règle du jeu, la règle que nous devons suivre pour agir politiquement. Nous avons la règle du jeu, mais le gagnant et le perdant dans ce jeu-là, on ne le connaît pas encore. Il faudrait que ce soit le peuple qui gagne. L'exemple de la Révolution française, c'était pas brillant, hein, les conséquences immédiates, c'est ce que nous sommes en train de vivre en fait. Une révolution ne résout pas le problème, elle lance un message pour l'avenir. Et la révolution tunisienne va être le conducteur de l'avenir du peuple tunisien, de l'histoire de la Tunisie.
Et de toute la région ou pas ?
Peut-être parce que on parle de l'exception tunisienne, c'est-à-dire que notre périphérie considère que la Tunisie est une exception de réussite. Mais il faudra bien suivre cette exception. Il faudra que cette exception devienne la règle. Et donc, cette réussite, cette exception tunisienne existe. Politiquement, en tout cas, elle est notoire. Il faut qu'on aille maintenant derrière. Parce que le politique ne résout pas à lui tout seul tous les problèmes d'un pays.
Voilà, Yad Ben Achour, un des pères de cette constitution tunisienne, Thibaut Cavaillès, vous me rappeliez. Hein, elle a été écrite là, au Bardo. Hein, quasi. Prenez votre micro, Stéphane Moussa.
Oui, tout à fait.
Donc le lieu ici, on le comprend, est d'importance. Nous revenons sur toutes ces questions avec vous, Stéphane Moussa, Mokhtar Trifi, Farida Ayari, François Gouillette, avec Thibaut Cavaillès, Denise Epstein qui est dans Dundee, Epstein qui n'est pas loin, et à 8h15. Le deuxième partie qui sera introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Oui, la question que j'aimerais poser, c'est on disait qu'il fallait d'abord passer par le cap difficile de la transition démocratique, qu'ensuite une grande coalition pourrait mener des réformes et que ces réformes entraîneraient les investissements nécessaires dont la Tunisie a besoin. Le cap de l'année électorale est passé. Où sont les réformes? Où sont les investissements européens en particulier?